C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant sur Vivre FM.
Qu'est-ce qu'une usine apprenante destinée aux travailleurs en situation de déficience intellectuelle ou handicap cognitif? Elle permet un apprentissage réel et peut-être une possible insertion dans le monde du travail ordinaire. Jade Goumard, journaliste du magazine Épatant, et Alexandre Traîneau, journaliste à Vivre FM, se sont rendus dans une telle usine, celle de la fondation AmiPi au Mans. Ils y ont rencontré les différents acteurs qui font fonctionner cette usine de production de faisceaux électriques. Ils sont nos invités. Aujourd'hui, ils sont autour de la table, ils vont tout nous dire.
Vous écoutez Vivre, c'est épatant avec Carole Clémence.
Jade, bonjour.
Bonjour.
Et Alexandre, bonjour.
Bah bonjour.
Donc vous êtes allés ensemble au Mans sur cette usine pour découvrir cette usine apprenante de la fondation AmiPi. Expliquez-nous, vous êtes partie de la journée, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, la journée complète. On a pu rencontrer du coup différents opérateurs. Ils ont pu un peu nous expliquer leurs travaux là-bas, comment ça se passait. Alexandre.
Oui, on y allait du coup il y a un mois tout pile, le 16 février dernier.
Oui.
On a été accueillis par du coup Jean-Marc Richard, qui est le président bénévole de la fondation AmiPi, et Franck Lespinasse, qui est aussi co-directeur. Et donc on a passé une journée entière là-bas, où on a pu du coup visiter l'usine du Mans. Qui fabrique, où les employés fabriquent des faisceaux de connectique pour les automobiles.
Oui, oui, oui. Donc c'est un vrai travail, hein, c'est une vraie production qui va être vendue, c'est
oui, totalement.
Un travail de qualité.
Ah, totalement, si vous avez un véhicule Peugeot chez vous, il y a de grandes chances que les faisceaux qui ont été fabriqués viennent de l'usine AmiPi.
Très bien. Et alors, l'AmiPi, on en dit quelques mots peut-être? C'est une fondation, AmiPi Bernard Vendre, Jade peut-être?
Oui, elle est reconnue d'utilité publique. Donc c'est une usine de production, d'apprentissage et d'insertion, plus communément appelée donc UP. Et le but en fait est d'aider des personnes atteintes d'handicap mentaux à développer leurs capacités intellectuelles et à s'insérer dans un milieu dit normal.
Donc un milieu dit normal, c'est une entreprise comme une autre aujourd'hui. Bon, après, les personnes qui sont à l'AmiPi font aussi un travail tout à fait normal.
Oui, oui. Et c'est un travail d'usine, c'est ça? Mais c'est un travail qui est accessible, et même s'ils ont un handicap sérieux, un très lourd handicap.
Oui, alors après, chaque activité justement est adaptée à la personne selon son handicap. Et ce que nous expliquait justement Sophie Suet, qui nous a un petit peu montré un peu comment fonctionnait l'usine, c'est que tout se faisait petit à petit, le système des petits pas en fait, et qu'on démarrait avec une activité qui était assez simple, qui permettait de manier les choses avec dextérité, l'appréhension, etc. Il y avait un travail qui était fait là-dessus, et que progressivement les personnes allaient arriver à des activités plus complexes, où elle pouvait se développer et potentiellement aller vers l'insertion dans la finalité des choses.
D'où usine apprenante, puisqu'on apprend.
Au fur et à mesure, ils apprennent justement à mieux manier les choses, à développer leurs capacités aussi intellectuelles et tout ça.
Et c'est vrai, il y a une vraie progression des capacités cognitives, c'est ça?
C'est ça.
La personne qui entre dans l'usine, le travailleur, il va vraiment progresser intellectuellement, il va apprendre. Progresser dans ses capacités et pouvoir faire des choses beaucoup plus compliquées que lorsqu'il est entré.
C'est ça.
Totalement. Et surtout, il y a en plus cet accompagnement des encadrants, en tout cas de la direction de l'entreprise, où chaque personne, on leur laisse le temps d'apprendre. Il faut respecter du coup des chiffres de production, etc. Mais on leur laisse le temps d'apprendre, et quand ils ont appris et qu'ils ont bien compris ce qu'il fallait faire, on leur propose du coup d'évoluer. Et à chaque fois, c'est un poste de plus en plus complexe. Et après, il y a tout ce qui est la plasticité du cerveau et tout, mais ils sont accompagnés de scientifiques.
Oui, oui. Et justement, il y a un grand scientifique, Jean-Michel Ougourlian, qui a publié un livre. La méthode d'apprentissage est basée sur les travaux de ce scientifique, hein.
Exactement, c'est autour de la psychologie mimétique, donc et des neurones miroirs. C'est comme une sorte de troisième cerveau, et en soi, c'est d'apprendre grâce à un modèle. On voit une personne réaliser quelque chose, par exemple là du coup les faisceaux, et en voyant les faisceaux qui se réalisent, la personne elle apprend en voyant, en servant d'un modèle.
Ouais, et alors vous êtes allé là-bas, vous avez pris du son, Alexandre, on va écouter.
On va travailler plutôt les compétences des personnes où elles se sentent reconnues comme bonnes, voyez, parce que c'est ça qui va vraiment développer les gens. Et ensuite, par rapport à ces compétences reconnues comme bonnes, on va développer aussi la possibilité de se dire, dans le fond, là, je suis dans un environnement qui fait du faisceau, c'est la seule usine en France qui en fait, quoi. Les seules usines en France qui en font, je ne vais pas sortir pour faire du faisceau. Je vais faire sortir pour faire des choses, mais forcément des choses que j'ai envie de faire. Donc, comme je ne sais pas ce qu'il y a forcément à l'extérieur, ça peut être travailler en boulangerie, dans l'hôtellerie, dans un tas d'autres activités que le faisceau, ou même dans l'industrie, forcément, je vais tester et voir si j'ai du goût. Mais à la fin du fin, vous allez vous rendre compte que les gens ne vont apprendre que s'ils ont choisi des modèles qui sont des gens qui vont les aider à apprendre. Alors ça marche partout. Sauf que c'est quand même plus facile de s'expliquer c'est quoi les règles du modèle. Et là, c'est le rôle du professeur Ougourian, puisque notre force, c'est de mettre des scientifiques dans nos organisations. Des vrais scientifiques. Nous, on est des chercheurs, des entrepreneurs, des managers, mais on n'est pas des scientifiques. Et ce qu'on a aujourd'hui identifié très clairement, c'est que les gens n'apprennent qu'à une condition, c'est d'avoir des gens qui voient faire des choses et qui leur enseignent et qui désignent en finale de manière subliminale de modèles, parce qu'ils sont compétents, bienveillants, qui désirent transmettre. Et nous, l'organisation, et c'est là la vigilance énorme du management et l'apprentissage du management, parce qu'on devient manager... On l'apprend, on peut avoir des prédispositions, mais il y a quand même des réflexes à avoir. C'est dès que je vois rivalité, là, je dois stopper les choses et dire aux gens, on va se faire une reconnexion, on va revenir pour se redire, c'est quoi les principes fondamentaux de bienveillance, de compétence, de manière à ne pas partir dans les tours.
Voilà, donc là, vous avez pu entendre Jean-Marc Richard, le président bénévole de la Fondation AMIPI, qui expliquait un peu, du coup, ce rôle de modèle qui a été mis en place pour apprendre au sein de la Fondation AMIPI.
Oui, bon. Donc ça, c'est la psychologie mimétique, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et ce qui était intéressant, c'est que le professeur Gourlian, justement, expliquait la différence entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir, en fait, il expliquait que ça vient d'en haut, et que ça peut potentiellement provoquer la rivalité, tandis que l'autorité va partir d'en bas. Du fait des compétences d'une personne, on va lui conférer une autorité, et du coup, on va être plus poussé justement à le suivre et à l'ériger pour nous en tant que modèle. Donc ça peut être des parents ou quelqu'un vraiment qu'on affectionne beaucoup. Et là, dans le cas de l'usine, justement, ça va être des personnes qui vont avoir des compétences. Ça peut être très bien une personne justement en situation de handicap, mais qui, par rapport à d'autres, va accumuler des compétences et qui va devenir un modèle pour d'autres, pour les pousser justement à se transcender dans leur activité.
Oui, et ça marche ? Vous avez été convaincu par ce concept ?
Personnellement, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que justement, on a rencontré une personne qui s'appelait Émilie et elle nous expliquait qu'elle cumulait justement deux postes parce qu'elle a réussi à se pousser elle-même en fonction des autres, en voyant les autres faire, à accumuler ce genre de compétences-là. Donc c'est hyper intéressant et ça marchait très bien. En tout cas, on a pu le constater.
Oui, Alexandre.
Totalement, et ce rôle de modèle, il est très important aussi pour l'accueil du coup des nouveaux arrivants au sein de l'usine, parce que ils arrivent, la plupart ils savent pas comment faire et tout, et c'est en voyant du coup ces personnes qui maîtrisent déjà du coup comment assembler, ça leur permet du coup de prendre exemple sur eux et d'avoir un modèle. Et surtout, ce qui est à noter, c'est que il n'y a pas de rivalité aussi au sein de la Fondation AMIPI. C'est vraiment de la bienveillance. Chacun accompagne les autres et s'il y a des problèmes, ils en parlent dans la direction, quoi.
Oui, oui. Donc la façon de travailler et de s'améliorer, ça c'est quelque chose qui est unique au sein de cette usine apprenante.
Exactement, on peut écouter ça.
L'objectif, c'est vraiment de parler vrai, de dire à la personne, voilà, chez nous, c'est vraiment l'autonomie, la rapidité et l'organisation de travail qu'il va falloir travailler, puisque le reste, c'est nickel. Donc comment on va être amené à gagner en rapidité ? Peut-être qu'il va falloir que je chronomètre quelqu'un de médium sur une tâche et que je puisse te chronométrer, te donner des délais pour un petit peu travailler le timing. voilà, ce sont que des petites choses au quotidien qui seront mises en place, qui pourront faire qu'elle pourra progresser. Et donc, il y a un échange toutes les semaines, justement, sur ces points, pour savoir si elle, elle se sent à l'aise, si elle a bien compris, est-ce que elle, ça lui va, est-ce qu'à l'inverse, il y a des choses qui ne lui conviennent pas. Donc, c'est vraiment un échange toutes les semaines sur ces plans d'action.
Donc là, vous avez écouté Sophie Suet, qui nous a accompagnés toute la journée lors de la visite de la Fondation Amipi, oui, au Mans. Et franchement, elle nous a vraiment tout bien montré, etc. Et c'était, pour être plus clair en plus, c'était pas une visite, on va dire, commandée où on nous a montré que ce que la Fondation a voulu. Ils nous ont même laissé...
Vous étiez libre de pouvoir aller voir ce que vous vouliez, de poser les questions que vous vouliez.
Oui, à un moment, ils nous ont vraiment laissé tout seul, où on a pu se balader dans l'usine pour poser des questions aux personnes, quoi, aux opérateurs, aux magasiniers.
Oui, oui, oui. Et alors, j'imagine que si on vous laisse tout seul dans l'usine, c'est qu'il y a une bonne ambiance, c'est que tout fonctionne bien.
Oui, globalement.
Oui, bah oui, globalement. Après, il y a certaines personnes, bon, c'est certaines personnes qui ressortent du négatif, mais dans tous les cas, il y a toujours du négatif. Mais le négatif, il est vraiment très moindre. C'est des personnes qui, dans tous les cas, elles sont pas là pour rester toute leur vie à la Fondation Amipi. Oui. Elles pensent vraiment à cette réinsertion future.
Oui, oui, oui. Oui, puisqu'il y a cette possibilité, on en parlera, de se réinsérer dans le milieu ordinaire. On va faire une pause, Jade et Alexandre, et on revient pour parler de cette usine apprenante du Mans.
Vous écoutez Vivre, c'est épatant, avec Carole Clémence.
Et nous parlons d'une usine apprenante, l'usine du Mans dans la Sarthe, une usine de production, d'apprentissage et d'insertion UP. On en parle avec deux journalistes qui sont allés en reportage dans cette usine. Ils ont pu la visiter, ils ont pu poser des questions à tout le monde. Une usine de la Fondation Amipi Bernard Vendre. Jade, Alexandre, cette usine, on a expliqué qu'il y avait une bonne ambiance. Les employés qui sont en situation de handicap, déficience intellectuelle, troubles cognitifs... déficit cognitif, vous sentez qu'ils sont bien accompagnés ?
Alors, totalement. Déjà, ils sont bien accompagnés, mais en plus, ils sont aussi laissés en autogestion. Parce que je tiens à rappeler que sur le Mans, par exemple, on a à peu près 150 employés. Et sur les 150 employés, c'est 135 salariés handicapés pour 10 encadrants. Donc, c'est à peu près un ratio de 1 pour 10. Donc ça montre quand même que les personnes sur place savent très bien ce qu'ils savent faire. Et après, du coup, dans leur travail, elles savent ce qu'elles doivent faire. Mais en plus, après, les encadrants, ils interviennent du coup quand ils ont des problèmes dans l'entreprise, mais aussi en dehors.
Oui, oui, et en dehors aussi, ils sont accompagnés en dehors de ce travail à l'usine Amipi.
Oui, par exemple, on avait rencontré quelqu'un qui voulait passer le permis de conduire. Et il était accompagné dans la démarche, justement... là-dessus, pour aller jusqu'au bout des choses. Oui. Il y avait le permis de conduire, ou il y avait d'autres situations, je me souviens plus exactement, mais vraiment des situations
personnelles. Même dans les recherches de logement, etc., ils sont accompagnés, mais on peut écouter ça. Si,
Auprès de nous, dans nos démarches et dans les aides qu'ils peuvent nous apporter, eh bien, ils sont ouverts d'esprit et ouverts à tout dialogue. Pour essayer de négocier justement, pour ressortir de ce milieu, pour retrouver un milieu normal. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup hein, pour des gens comme nous en fait, qui avons des difficultés à faire les démarches nous-mêmes pour trouver du travail en société ordinaire. Et c'est vrai que ça c'est très bien d'avoir ce milieu et puis avoir les dirigeants qui s'occupent de ce processus. Mais avec la MIPI, là justement, avec la Fondation, on a la possibilité de passer le code et faire des examens de code. On a des exercices tous les vendredis en ce moment qui nous apportera justement peut-être à passer le code d'ici quelques temps. Et ça, c'est géré par la MIPI quoi, avec le compte CPF. Et c'est vrai que ça nous permet justement d'avoir une chance, c'est une chance supplémentaire en fait pour accéder après aux moyens de transport. Et à nos propres locomotions.
Voilà, donc là, vous avez pu entendre le témoignage d'un opérateur qui travaille à la Fondation Amipi. Et il montre vraiment, quoi, en tout cas, selon son point de vue, que la Fondation Amipi les accompagne en dehors même de leur travail.
Alors, opérateur, c'est quoi ? Vous pouvez le décrire ? Quel est son travail exactement ?
Alors, opérateur, c'est tous ceux bah, du coup, qui sont au niveau des tables du coup, de fabrication et qui fabriquent les faisceaux. Et après, du coup, Ça peut aller d'un travail très complexe, d'un travail peu complexe où il faut juste emboîter quelques fils dans des boîtiers, à plus complexe où il faut coller de la feutrine et après, dans tous les cas, c'est de plus en plus complexe et c'est ce qui se fait à l'AMIPI où on est là pour apprendre.
Oui, oui. Donc l'AMIPI qui aide beaucoup les employés.
Après, dans tous les cas, à l'AMIPI, on a pu interviewer aussi beaucoup d'employés et ils nous ont un peu expliqué ce que ça leur apportait de travailler là-bas.
Avant que j'arrive à l'AMIPI, j'étais dans d'autres services, je faisais des petits boulots comme ça. J'étais passé peut-être dans une saison de 2 mois dans une sorte école parce que c'était un peu mon métier et puis après je suis arrivée là et je me suis dit bon au moins ce sera déjà un bon début. Oui, je prends confiance en moi et tout.
Ça m'a appris beaucoup de choses, être confiance en soi et voilà, être partout polyvalent. Timide, très timide, je suis ouvert à tout le monde. J'aide les personnes qui ont besoin.
J'ai beaucoup évolué en quelques temps en entreprise, quoi. Bon, au début, c'était compliqué parce qu'il fallait que je m'habitue. Maintenant, j'ai plus du mal à tout ce qui est les options informatiques ou tout ça avec le PC, quoi.
Au niveau activité, oui, absolument, tout à fait. C'est vrai que ça me permet justement d'avoir un milieu social salarial, une activité attractive. Et puis avoir des horaires, ça permet justement d'avoir une souplesse dans ma vie de tous les jours. Quoi. Pour moi, personnellement, oui, c'était un renouveau, c'était revivre au niveau activité, au niveau salarial, au niveau responsabilité aussi, parce que c'est vrai qu'on a des responsabilités à entreprendre. La qualité des produits, il faut qu'ils soient vraiment compétents. Nous, il faut qu'on soit compétents pour justement avoir des produits très, très fiables, pour ne pas décevoir non plus nos clients.
Oui, et Alexandre, Jade, il y a très peu d'encadrants, vous m'avez dit, ce sont des personnes qui ont parfois un lourd handicap, une lourde déficience intellectuelle, des troubles cognitifs, des traumatismes qui ont pu créer des problèmes pour intégrer un milieu ordinaire, pour avoir un travail compliqué. Là, on apprend, c'est une usine apprenante, mais est-ce qu'il n'y a pas des problèmes est-ce que ce n'est pas compliqué de laisser un employé comme ça qui a un lourd handicap tout seul dans une usine? Comment ça se passe? Parce qu'il a vraiment des tâches importantes à effectuer. C'est un vrai travail.
Globalement, l'encadrement est plutôt bien fait. Mais c'est vrai qu'on a à faire face à des personnes qui ont un manque de confiance en soi assez majeur. Et justement, c'était ce que avait fait remarquer en fait la coordinatrice entre apprentissage et industrie, Caroline Gaborio, qui a mis en place en fait un programme qui s'appelle le programme des neurosciences. Et dans lequel, justement, on redonne confiance aux individus pour leur dire qu'ils ont les capacités de faire les choses par eux-mêmes, d'être autonomes, et généralement ça se passe très bien. Il y avait un témoignage qui m'avait un peu frappé lors d'une des sessions qu'ils avaient faites. C'était un des opérateurs qui avait dit une phrase par rapport à son parcours personnel. Il s'était senti jusqu'à l'AMIPI auparavant comme un handicapé rejeté aux yeux des antiracistes. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez prenant. Et en fait, on remarquait qu'au fur et à mesure de cette formation et de leur parcours à l'AMIPI, ils arrivaient vraiment à reprendre confiance en eux et à être des individus beaucoup plus autonomes qu'ils l'étaient avant.
Oui, on va écouter une manager, c'est ça, qui explique comment on fonctionne à l'AMIPI.
Oui, c'était Sophie Suet. Elle nous expliquait un peu de quelle façon ça se passait au sein de l'entreprise, en tout cas le savoir-vivre, parce que dans l'entreprise, on travaille surtout le savoir-vivre et le savoir-faire.
Aujourd'hui, certains opérateurs ont des missions liées à la gestion d'entreprise. Donc là, par exemple, si je prends le rôle d'Émilie, qui est responsable des kits propreté, c'est Émilie qui va venir auditer tous les kits une fois par semaine. Donc on a travaillé ensemble un plan d'usine. Donc ça l'amène déjà à travailler, à se repérer dans l'espace, puisque c'est Émilie des fois qui me dit « non Sophie, le kit propreté il est pas là, il est là-bas ». Donc ça travaille aussi tout l'aspect organisation dans l'espace. Et le rôle d'Émilie, c'est de venir auditer tous les kits, à savoir est-ce qu'ils sont complets. Si jamais il manque des plumeaux qui permettent, en fait ces kits permettent aux opérateurs de nettoyer leur poste de travail le soir. Et si par exemple les postes sont incomplets, Émilie me le signale et d'elle-même elle viendra réapprovisionner Du coup, c'est Kit Propreté, en allant voir directement le bon interlocuteur.
Et donc là, on a écouté le point de vue de Sophie et elle a parlé de Émilie qui réalisait du coup ces opérations-là et on va écouter celui d'Émilie.
Bah, au début, ça peut stresser, mais en fait, non. Après, j'ai commencé à être très à J'ai plein de kits qui se trouvent à certains endroits où je sais où ils sont. S'il y a un crochet et que je vois qu'il y a un crochet, donc je coche là. Et s'il en manque, bah, je vais voir, comme on dit, les personnes qui s'occupent tout ce qui est marqué dessus. Et après, je coche une autre couleur, comme le réa professionnel.
Oui, et donc une employée, une travailleuse de cette usine apprenante du Mans, l'usine de la fondation Amipi Bernard Vendre. Il y a d'autres usines hein, en France, on n'en a pas parlé, il y a 6 usines en tout, hein, je crois, Jade.
Oui, c'est ça, 6 usines en tout. Alors elles sont basées...
Dans le Pays de la Loire et le centre de Loire.
C'est ça, il y a Blois, Nantes, Le Mans, Tours.
Voilà. Le siège est à Cholet,
oui.
De l'entreprise, quoi, de la fondation.
Oui. Et alors Le Mans, c'est combien d'employés?
C'était c'est
une quarantaine.
Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 135, c'est à peu près 150 travailleurs, dont 135 travailleurs handicapés.
Oui, oui, oui. Et alors ces personnes, est-ce qu'elles ont toutes le même handicap, tout le même niveau d'apprentissage, tout le même niveau de connaissances?
Pas exactement, justement, c'est pour ça que chaque poste est adapté aux difficultés de la personne. Donc, et c'est ce qui permet leur évolution, justement.
Oui, et du coup, oui, bien sûr, chaque personne a son handicap, mais en plus, elles ne communiquent pas sur leur handicap. Quand on parle avec eux, c'est on parle avec un travailleur dans une usine, c'est pas une personne handicapée avec qui on travaille, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi quand j'ai visité l'usine, c'est vraiment des personnes qui travaillent, donc en plus... Je pense qu'on devait les gêner dans leur travail,
oui.
en visitant.
Vous avez fait baisser la productivité de l'entreprise.
J'espère pas, mais... mais en tout cas, oui, c'est vraiment cette notion de travailleur, parce que qu'ils soient opérateurs, magasiniers ou qu'ils soient même assistants de formation, parce que du coup, ces modèles-là, ils participent aussi du coup, à former ces nouveaux-là. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on leur donne beaucoup d'autonomie. Et parce qu'en plus, ils peuvent se syndiquer, bien sûr.
Oui, donc c'est vraiment une entreprise...
comme les autres,
typique,
finalement.
Hein, ils sont traités de la même façon.
Exactement.
Il y a peut-être un petit peu plus d'encadrement, par contre.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus adapté, justement, selon leur situation à eux, personnel,
oui.
Selon leur handicap. Mais globalement, c'est une usine comme une autre, en fait.
Oui. Alors, pour les déficiences intellectuelles, il y a parfois des gens qui sont très déficients, qui ont un déficit de connaissances, par exemple en lecture, en écriture, en calcul. Comment ça se passe pour eux?
Eh bien, sur place, du coup, dans les usines, c'est des personnes qui ont été écartées très rapidement du coup, des systèmes des cursus scolaires. Et certains d'entre eux ne savent ni lire ni écrire, donc... L'entreprise a mis en place certains dessins, pictogrammes pour qu'ils comprennent mieux, en tout cas, ce qu'ils doivent faire.
Donc vous voyez ici, c'est encore une fois quelque chose de très visuel, de coloré, très imagé. L'objectif, c'est de se dire que dans l'atelier, on a beaucoup de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Et comment on peut impliquer ces personnes au sein de la vie entreprise en prenant en compte ces difficultés. Donc là, par exemple, typiquement, Aurélie, qui a démarré le 5S avec moi, ne sait pas lire et écrire. Donc tout simplement, on se dit, le mot cassé, qu'est-ce qui en image pourrait représenter ce mot? Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a mis en place ces différentes petites images. Et ce qui lui permet en fait de faire un 5S. Donc l'objectif du 5S, c'est de faire un audit dans une zone précise pour savoir si oui ou non l'environnement est rangé. Donc ça, ce sont des notions qui sont très appréciées dans les entreprises du milieu ordinaire, puisque eux-mêmes, soit ils ont déjà un 5S, donc ils sont plutôt étonnés à se dire « Ah, bah, les opérateurs, on connaît déjà cette notion, etc. » Donc souvent, ils les impliquent aussi dans l'insertion par rapport à tout cet univers 5S. Ou alors, on a eu l'exemple de Foussier, qui eux avaient trouvé cette approche de 5S hyper intéressante et qui ont profité de l'intégration d'un de nos opérateurs chez eux pour le mettre en place. Et c'était carrément notre opérateur qui était un peu le leader sur cette mise en place. Donc ça l'a également mis en avant et je trouve que c'est aussi une valeur ajoutée de leur inculquer toutes ces notions.
Et donc, comme vous pouvez le voir, du coup, ce 5S, du coup, je vais un peu plus définir ce que c'est. Donc, le 5S, ça vient du Japon. Et c'est tout ce qui concerne débarrasser, ranger, nettoyer, impliquer, standardiser pour veiller au bon respect du site. Et là, comme vous avez pu l'entendre, surtout, c'est que on voit qu'il n'y a pas de discrimination après à l'embauche, et surtout dans cette façon d'insertion, parce qu'on voit qu'une personne qui s'insère du coup dans l'entreprise qu'on a citée juste avant, elle arrive en tant que modèle. Donc en plus, c'est peut être très intéressant pour eux de se réinsérer dans une autre société, puisqu'elles apportent des qualités que certaines personnes n'ont déjà pas.
Oui, ouais. Jade, vous voulez renchérir ?
Ah non, pour le coup, c'est ça, c'est très complet, c'est ça.
Et alors on va continuer, on va parler de l'insertion, puisque une partie de ces personnes, de ces travailleurs, de cette usine apprenante, ont acquis une expérience, des compétences qui vont leur permettre de travailler dans le milieu ordinaire, malgré leur handicap, déficience intellectuelle ou problème cognitif. On en parle dans un instant sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
Nous parlons d'une usine très originale, l'usine apprenante du Mans de la fondation AMIPI Bernard Vendre. Une usine qui permet à des personnes avec un handicap, déficience intellectuelle, handicap cognitif, de travailler. Ils peuvent partir de zéro, ils peuvent n'avoir jamais travaillé. Ils vont apprendre un travail peu à peu dans cette usine apprenante. Et ça fonctionne vraiment, puisque vous avez rencontré de nombreux employés là-bas, vous avez pu voir que les gens progressaient, passaient de poste en poste, de poste de plus en plus compliqué en plus compliqué, Jade, Alexandre, et une partie d'entre eux vont intégrer le milieu ordinaire. Alors, qui va en parler ? Jade ?
Non,
Alexandre,
coup,
visiblement.
J'y vais. Oui, parce qu'en soi, la fondation AMIPI, c'est un milieu adapté, mais c'est pas une fin. Le but premier de la fondation, c'est la réinsertion pour ces personnes dans un milieu dit normal.
Oui.
Et donc, c'est pour ça que, après, on va dire que du coup, il y a toute cette phase d'apprentissage où ils commencent d'un poste pas complexe, de plus en plus complexe. Et quand ils ont fait le tour et qu'ils connaissent tout dans l'entreprise, bah, le but, après, au final, c'est de parler du coup avec les dirigeants de la fondation AMIPI pour commencer à s'insérer dans une entreprise qui les intéresse.
Ça doit être beaucoup plus compliqué de s'insérer dans une entreprise ordinaire.
Après, le souhait, il peut venir soit d'eux, soit justement de la personne qui est en charge de coordonner le passage en entreprise ordinaire. Et c'est pas si compliqué dans le sens où les entreprises qui insèrent ces personnes-là sont accompagnées par la MIPI. Donc il y a tout un processus où on retrouve les mêmes choses qui ont été mises en place au sein de la MIPI dans les entreprises ordinaires,
oui,
dites ordinaires, et qui permet justement leur insertion. Une insertion assez simple, en fait, de ces personnes-là.
Oui.
Oui.
Je ne peux pas vous dire que ça faisait peur, quoi. Ça faisait peur. Dans une autre entreprise, ça fait comme si qu'on est critiqué, quoi. Hein, ben lui, bon, il ne sait pas lui.
De passer dans une... de pouvoir repasser, de voir autre chose, oui, puis de pouvoir me remettre dans le droit chemin pour le milieu ordinaire, en fait.
Pour le moment, je préfère rester là. C'est parce que pour le moment, je me sens bien là. J'ai ma copine qui est là.
Mon but, j'aimerais bien évoluer dans une entreprise normale en tant que magasinier, quoi. Faire ce métier-là, quoi. Bah, après, c'est possible, oui, c'est... Après, il faut que... être le temps, quoi. J'ai pas resté là, ici, quoi. Mon but, j'aimerais bien y aller ailleurs, quoi.
Et voilà, donc vous avez pu écouter du coup les réactions de nombreux employés du coup qui bossent à la fondation AMIPI, et on a vu que certains, ils avaient vraiment un souhait de s'insérer dans l'entreprise, c'était vraiment leur but final d'être ici, et d'autres qui pour leur part étaient quand même beaucoup plus sur le recul là-dessus, où il y en a un parce qu'il y a sa copine et tout qui était sur place. Mais après, il y en a d'autres, par exemple, il y en a, ils ont plus de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et en soi, se réinsérer, ils ont leur petit quotidien là-bas, c'est...
C'est effrayant.
C'est plus compliqué, ouais.
Oui, oui. Mais l'insertion dans le milieu ordinaire, ça fonctionne. Il y a des exemples. Il y a combien de personnes, où il y a des chiffres qui ont pu se réinsérer dans le milieu ordinaire, Alexandre ?
Alors oui, totalement. Donc depuis 2019, c'est la fondation AMIPI, c'est 158 insertions dans une entreprise classique. Et ce qui est bien au Mans, c'est que du coup, c'est, on va dire, c'est la première dans leurs usines. Et sur les 158, il y en a 44 qui ont été faits au Mans. Et ce qui est, donc, il y a quand même des chiffres qui parlent et tout. Et grâce à ces chiffres, ça permet aussi surtout de créer cette confiance avec les autres entreprises, montrant que les personnes qui sortent de la MIPI, c'est pas, on va dire, ça va être un peu péjoratif, mais c'est des handicapés qui ne peuvent pas travailler. Parce qu'il y a vraiment cette notion, quand la MIPI approche des fois des entreprises qui ne les connaissent pas, ils pensent que c'est vraiment des travailleurs, on va dire, des AT, et il y a un peu cette notion péjorative, toujours cette anti-raciste, comme disait Jade tout à l'heure. Et ce qui est bien, du coup, c'est que le fait que le travail de la Fondation AMIPI, ça permet aussi de communiquer là-dessus et de montrer que même si les personnes ont des handicaps, elles peuvent très bien travailler normalement.
Oui, vous parliez des AT, quelle est la différence entre cette usine apprenante, cette UPAI et un ESAT, quelle est la différence?
Comme on l'a dit tout à l'heure, déjà en ESAT, les personnes ne sont pas salariées. À la Fondation AMIPI, c'est des salariés.
Oui.
Ils peuvent se syndiquer, comme on l'a dit aussi tout à l'heure. Et on les a non plus. Et elles ont des salaires, etc. Et ils sont surtout en autogestion. Il y a beaucoup moins d'encadrants.
Oui, oui. Vous voulez rajouter quelque chose?
Je voulais juste ajouter aussi que, en fait, les entreprises ordinaires, l'avantage qu'elles avaient justement en insérant ces personnes-là, c'est qu'elles avaient des personnes qui étaient fidèles à l'entreprise, ce que nous expliquait aussi Sophie Suet, et qui étaient vraiment investies. Alors que, parce qu'elles ont une valeur travail qui est différente de celle qu'on peut avoir en tant que personne ordinaire. Il n'y a pas l'aspect de contrainte dans le travail, il y a l'aspect au contraire de se transcender, de s'épanouir, etc. Donc oui. Elles ont des personnes fidèles, généralement.
Alors la Fondation AMIPI, Bernard Vendre, pourquoi Bernard Vendre, ça vient d'où ce nom associé?
Alors Bernard Vendre, c'est le fils de Maurice Vendre, qui était donc le fondateur de la Fondation AMIPI. Bernard Vendre, c'était une personne atteinte de trisomie 21.
D'accord.
Qui est malheureusement décédée aujourd'hui. Et Bernard Vendre, quand il est arrivé à l'école, on lui a dit qu'il était handicapé, qu'il pouvait rien faire de sa vie. Et Maurice Vendre, ça a été un combat toute sa vie de prouver le contraire, parce qu'il voyait que son fils avait quand même des capacités pour réussir. Et on va dire que Maurice Vendre, ça a été un exemple, ça a été un peu un exemple pour Maurice Vendre, de montrer que ces personnes qui étaient considérées comme handicapées et inutiles à la société, parce que ces personnes qui sont inutiles à la société coûtent en plus à l'État français. Je crois que c'est à peu près 30 000 euros par personne handicapée chaque année que ça coûte. Et du coup, ce travail-là, c'est encore en cours, mais ça permet surtout de montrer que même si l'État considérait et même la société considérait que ces personnes étaient handicapées pendant de nombreuses années, Maurice Vendre, il a permis de commencer à changer les choses.
Oui, oui, puisque le cerveau est plastique et on peut progresser toute sa vie, même en partant de très bas, on peut progresser et travailler dans le milieu ordinaire, comme on l'a vu, en tout cas pour certains des employés de l'usine. Dans cette usine, les ouvriers travaillent et produisent véritablement, c'est efficace, c'est un vrai travail.
Ouais. Et ce que précisait justement Jean-Marc Richard, c'est qu'il ne faut pas laisser quelqu'un s'installer dans sa maladie, parce que justement, il ne va pas réussir à s'en sortir, et qu'au contraire, il faut entamer un dialogue social et lui permettre justement de s'exprimer à travers son travail, mais à travers des choses ordinaires que n'importe qui pourrait faire.
Oui. Alors, un dernier mot, vous êtes parti une journée au Mans dans cette usine, vous l'avez visitée, vous avez rencontré plein de gens, vous avez discuté. Qu'est-ce qu'il en ressort? Vous avez une image qui est restée, Jade?
Et moi, c'était vraiment cette valeur travail qui permettait justement aux personnes de s'épanouir et de se transcender. Et il y a vraiment une redéfinition du travail en soi. C'est pas vécu comme une contrainte, mais c'est vraiment vécu comme quelque chose où on peut s'épanouir, on peut être heureux, et c'est une condition en fait du vivre ensemble, comme le disait Jean-Marc Richard, qui est nécessaire à nos sociétés actuelles.
Oui, Jade, et vous Alexandre?
Alors moi, c'est plus cet aspect social et humain, c'est parce que on arrive, pendant moi, dans ma jeunesse, c'était vraiment une personne handicapée, on me disait elle pourra rien faire de sa vie, etc. Et là, en plus j'ai bossé dans des usines quand j'étais plus jeune, et là je suis arrivé dans une usine et c'était des personnes tout à fait normales qui réalisaient un travail tout à fait normal, et il n'y avait pas de différence. C'était vraiment, pas une claque, mais c'était une leçon de vie.
Parce que quand vous avez pu travailler dans des usines vous-même en tant qu'ouvrier, vous auriez pu travailler là-bas. Enfin, il y avait une différence de niveau, vous voyez ce que je veux dire ?
Alors, je pense que comparé à eux, j'aurais pas pu faire ce qu'ils faisaient. En tout cas, oui. il faut du travail parce que c'est pas si simple que ça à réaliser ce qu'ils font. C'est il y a un apprentissage et que on soit une personne valide ou une personne handicapée, il y a vraiment c'est vraiment complexe à réaliser. Par exemple, quand on voit le collage de la feutrine à réaliser. Avec Jade, ils ont essayé de nous faire faire pour nous montrer. je ne dirais pas si on a réussi ou pas. Mais c'était compliqué, oui.
Oui, oui, oui. Au fur et à mesure du travail, de l'apprentissage, l'ouvrier a atteint un niveau, un bon niveau.
Un bon niveau et surtout, il y a cet aspect social parce qu'au final, c'est des personnes en plus qui pour la plupart, sont isolées. Parce
oui.
que des fois, où ils sont surprotégés par leurs parents parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire, etc. Et c'est des personnes qui, en plus, après, volent de leurs propres ailes, qui prennent leur appartement, qui peuvent passer leur permis, qui, du coup, qui ont leur propre salaire et qui, après, s'insèrent dans des entreprises. Et ça, c'est magnifique, je trouve.
Oui, c'est magnifique. Vous étiez enthousiaste en revenant, hein,
ah ouais.
tous les deux.
C'était, oui. c'est vrai. Ouais, c'était incroyable.
Oui, oui, bah, totalement. Et ce qui, en plus, qui est important, c'est que la MIPI, en plus, n'abandonne pas ces personnes qui se réinsèrent. Il y a toujours un suivi derrière. Et ça leur permet de garder des contacts. Après, comme il nous expliquait, il y en a certains, je ne sais pas, peut-être par un sentiment de honte, ils préfèrent rester du coup dans cette entreprise normale et couper les ponts avec la MIPI. D'autres y reviennent en disant « Ouais, regardez, moi j'ai réussi, vous aussi, vous pouvez le faire. » Et même après, la MIPI continue de les accompagner à la direction, etc.
Voilà, mais c'était un très bel exemple de ce qui peut être fait dans le monde du travail pour les personnes en situation de handicap. Cette usine apprenante de la fondation AMIPI Bernard Vendre au Mans. Et alors, il y en a d'autres, il y en a cinq autres. Voilà, on continuera d'en parler, je pense, dans l'année de ces usines apprenantes. C'est vraiment passionnant. Merci à vous deux.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.